Well, it seems to me that everybody speaks about Europe all the time today.
L'Europe de peuple.
L'Europe, c'est à la fois trop petit et trop grand.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut changer ça?
I fucking love Europe.
Full Continental, épisode 43, résoudre des mystères et construire des cabanes.
Full Continental, Caroline Gillet, sur France Inter et la RTBF.
Ces derniers mois, on a entendu ici beaucoup d'histoires de jeunes en lutte. Pour cet ultime épisode, alors qu'approche l'été, c'est de plus en plus évident, je voulais vous proposer deux histoires de famille, du genre de celles qu'on se raconterait autour d'un barbecue ou d'un feu de camp pour les plus ambitieux parmi vous. Deux histoires de famille un peu folles, utiles comme toutes les histoires de famille parce qu'elles livrent un peu de là où on vient. Et qu'elles peuvent être très utiles un soir de premier rendez-vous, quand on ne sait plus trop quoi se dire après avoir parlé de météo. C'est pas mal, dans ces cas-là, de faire appel aux aïeux pour étoffer les récits de soi. Vous allez entendre ici deux histoires de famille, des histoires de recherche de grand-père disparu, l'un entre Nice et l'Italie, ce sera l'histoire de la famille de Zéro Calcar, l'autre entre Londres et l'Irlande, celle de Kelly Rivière. Et on commence avec elle, et avec une flûte, on va terminer avec une cabane, et entre les deux, il y aura donc la recherche de son grand-père disparu, qui un jour est parti acheter des cigarettes et qui n'est jamais revenu.
Quand un tabou est là, une omerta, c'est même pas clairement dit, je veux pas en parler, mais on le sait qu'il faut pas en parler, quoi. Ma grand-mère, elle disait pas tous les jours, et je veux pas parler de Peter, hein. Mais c'était clairement...
Compris, entendu.
Voilà. Sans que ce soit dit. Le bruit du silence, quoi.
Kelly a choisi, contre l'avis de ses parents, de raconter cette histoire au théâtre dans une pièce qui s'appelle « An Irish Story », une histoire irlandaise. J'ai été la voir avec une amie très exigeante en théâtre qui va voir plein de choses très pointues dans des grandes salles avec parfois des décors monumentaux où les gens se versent du faux sang nus sur scène ou encore des spectacles qui durent 8 heures. Là, je lui avais donc pris une place pour ce seul en scène d'une heure dans le tout petit théâtre de 100 places de Belleville. Et puis en sortant, ce n'était pas pour me faire plaisir que cette pote m'a dit qu'elle avait adoré. J'ai pris rendez-vous avec Kelly pour qu'elle me raconte, qu'elle vous raconte, ce spectacle et les origines de son histoire irlandaise. Je lui ai demandé si je pouvais venir chez elle pour qu'elle me montre tous les objets irlandais hérités de sa famille. Elle a cherché, elle a réfléchi, et puis elle m'a dit qu'il ne restait pas grand-chose d'irlandais chez elle. Ou en tout cas, ce qui restait, ça rentrait facile dans un petit sac. Alors elle est venue à la radio avec son histoire, ses objets irlandais, le tout dans un sac en tissu écossais. Et le premier objet qu'elle a sorti, c'était donc une flûte.
Ça s'appelait même Penny Whistle, puisqu'on donnait un penny à celui qui jouait ça dans la rue. Quand je m'étais lancée dans le projet, je m'étais dit que j'allais apprendre à en jouer. C'est un son qui m'émeut pas mal, parce que c'est un instrument tout simple, traditionnel, irlandais. Je sais très peu en jouer, donc je vais pas...
Tu peux faire juste un son pour voir à quoi ça ressemble, le son? C'est des sons très mélancoliques.
Voilà, c'est ça. En fait, ce qui me plaît, c'est le côté très simple de l'instrument et qui, en même temps, a plein de variations possibles et effectivement mélancoliques. Voilà, un état d'esprit que je relie pas mal à l'Irlande, l'île avec le vent, avec la mer, avec cette terre d'exil pendant des années et des années.
L'Irlande, ce n'est pas où Kelly a grandi. Kelly, elle a grandi en France. L'Irlande, ce n'est pas non plus où sa mère a grandi. Sa mère a grandi à Londres. Et l'Irlande, ce n'est pas vraiment, non plus, l'endroit où a grandi sa grand-mère. Parce que très jeune, elle est tombée amoureuse de son grand-père. Et ensemble, ils ont fui l'Irlande pour Londres.
Ils ont été chassés, ma grand-mère et mon grand-père, d'Irlande. Donc, il n'y avait pas de lien. Toute la famille était à Londres. Je voyais des photos, mais j'en entendais beaucoup parler à travers ma mère, en fait. Qui
elle-même n'y avait pas grandi.
Non. Ma mère disait souvent « Remember, you're half Irish », quoi. Tu es à moitié irlandaise, tu as du sang irlandais en toi. Il y a un truc, mais qu'ont beaucoup les Irlandais. Un truc très... un rapport à la terre très fort et qui, poussé à son extrême, les rend aussi parfois assez peu ouverts au monde extérieur.
Je demande à Kelly quand elle est allée pour la première fois en Irlande.
On va dire vers 2004, j'ai dû y aller parce que je sortais avec un Irlandais du Nord. Mais le voyage que je raconte dans la pièce, c'est en 2006 avec ma mère.
La quête de Kelly, la recherche de son grand-père disparu, j'imagine qu'elle commence avec l'envie de comprendre déjà l'histoire de sa propre mère. Très tôt, elle a dû se demander pourquoi sa mère ne parlait pas la même langue que son père.
Finalement, ma mère, maintenant, ça fait plus longtemps qu'elle habite en France qu'elle n'a vécu en Angleterre.
Et pourtant, elle a un accent génial.
Voilà. Et cet accent qui reste, Et ils restent chez les gens, des fois ça fait 50 ans qu'ils sont en France, ils ont moins vécu dans leur pays d'origine que dans leur pays d'accueil, mais ils gardent. Alors là, ma mère, très souvent, les gens au bout de 10 minutes lui disent « Vous avez un petit accent, non ?» Et elle dit « Oui, je suis anglaise. » Mais ma grand-mère garde un accent irlandais. Quand elle parlait anglais avec un accent irlandais.
Et ça, ça donne quoi?
Ben, ça donne « Do you want a bit of butter or a cup of tea ?» Et ça, je trouve ça émouvant, comme on garde des traces de ses origines, toujours en fait.
Dans son spectacle, Kelly seule se réapproprie ses différents accents. Tout comme des sédiments, ceux-ci racontent l'éloignement progressif d'une famille, de l'Irlande, vers la France. Génération après génération, la langue en mutation. Kelly raconte alors, par exemple, comment un jour, pour tenter de percer le mystère, elle avait demandé à sa mère comment ses parents, elle, les grands-parents de Kelly, s'étaient rencontrés. Sa mère avait répondu ceci, avec son accent donc.
Une fois, j'ai demandé à ma mère comment elle avait rencontré mon père. Une fois, je devais avoir 8 ans. Nous habitions à Londres. Nous venions d'avoir un HLM, Kelly, un 2 pièces pour 8. Et crois-moi, c'était une chance, hein, parce qu'avoir un HLM en Angleterre dans les années 50 quand tu étais irlandais, c'était pas gagné. Hein. Nous l'attendions depuis longtemps, ce logement. Tu sais, à l'époque, les Noirs et les Irlandais étaient accueillis par des pancartes « No Blacks, No Irish, No Dogs ». Nous étions traités comme des chiens. Oh, les Anglais te diront aujourd'hui que ça n'a pas existé, mais ça existait bel et bien. Ce soir-là, l'appartement était plongé dans l'obscurité parce que ma mère, Kelly, n'avait pas le penny à mettre dans le compteur électrique. Oui, l'électricité fonctionnait comme ça à l'époque, mais tu n'as pas connu ça, toi. Ce soir-là, mes frères et sœurs jouaient dans la cour. Et ma mère était en train de couper un oignon, Kelly. Un oignon, parce que ce soir-là, nous n'avions que cela à manger. Oui, il est arrivé des soirs comme cela, mais tu n'as pas connu ça, toi. Ce que c'est que d'aller au lit et de ne pas réussir à t'endormir tellement tu as faim. Et d'ailleurs, sa réalité est plus dure que ce que je raconte dans la pièce. Des parents très jeunes, pas de travail. Et puis un placement, il a fallu placer 3 enfants en fait, les 3 aînés à un moment donné. Carrément quoi. Ça je le raconte pas dans la pièce. Mais ma mère et 2 de ses sœurs ont été placées. Et elles savent pas combien de temps ça a duré, est-ce qu'elles étaient ensemble, séparées. Et ensuite ma grand-mère les a récupérées, a refait 3 enfants... Puis ça pose aussi cette... Pourquoi faire des enfants? Pourquoi il y en a 6 aussi? C'est un peu incompréhensible pour ma mère pourquoi ma grand-mère en a fait autant, en si peu de temps. Moi, je juge jamais parce que je me dis, ça voudrait dire quoi? Que seuls les riches peuvent avoir des enfants? Enfin, donc, mais en tout cas, voilà, je pense que ça marque.
Et surtout dans une famille où au bout d'un moment, le père disparaît et donc voilà. La mère se retrouve seule avec 6 enfants.
Ouais. Et elle a des souvenirs, ma mère, de traîner son père... dans les escaliers, ivre. C'était certainement quelqu'un de pas très responsable. Mais d'ailleurs, ma mère trouve que je redore trop le blason de mon grand-père. Pour elle, c'est pas du tout sa vision. C'est quelqu'un qui a abandonné sa famille. Mais comme je sais tellement peu de choses...
Kelly a donc choisi de faire du théâtre.
Ma mère s'en est très bien sortie par rapport à de là où elle vient et là où elle est allée. Du coup, ça donne un modèle difficile à dépasser parce que c'est pas facile pour ceux qui suivent de dire... J'étais tellement tiré loin et haut par rapport à de là où tu viens. Moi, donc, visiblement, je commence plus haut. Alors,
J'en fais quoi?
C'est pas un héritage non plus très facile.
Et voilà comment, sur scène, elle raconte ce que ça veut dire d'être de double culture.
Bah oui, parce que Michel Ruisseau, il vient de Ballaruc-les-Bains, une petite station thermale à 10 km de Sète. Alors quand il rencontre l'Anglaise venue d'Irlande, oh mais il sait pas dans quel foutoir il s'est foutu là. La première fois qu'il débarque à Londres pour assister à une réunion de famille chez Caitlin, il comprend rien. Why are you soaking like that? Because it's raining outside. No, it's not. Yes, it is. So didn't come on foot then? Of course not. We didn't come on foot. We're in the underground with Michel. Michel, it's me. À l'époque, Michel ne reconnaît que 2 sons, son prénom et cup of tea. Michel, would you like a cup of tea? Cup of tea, Michel? Yes, all right. Then another cup of tea for Michel. Du coup, Michel, il se retrouve à boire cup of tea sur cup of tea. Il est sous perfusion de cup of tea. Il n'en peut plus des cup of tea. Il y a un autre truc qu'il ne comprend pas, c'est l'heure à laquelle on mange là-bas. Would you like a snack, Michel? A sandwich? Ah, non, thank you. Because then after plus faim for the dinner tonight. Non, mais Michel, c'est ça le repas. C'est le sandwich. Hein? Mais il est 17h. A sandwich with a cup of tea? It goes well ensemble. Caitlin, c'est pareil, quand elle arrive dans le midi de la France, elle ne comprend rien. Elle a l'impression qu'on parle une autre langue. Déjà, elle a l'impression que tout le monde s'engueule en permanence. Oh ! Adieu Harry ! Adieu Michel, cet homme a dit adieu à ton père, il ne veut plus le voir, jamais, jamais. Non mais, Caitlin, ici adieu, c'est pour dire bonjour. Oh, couillon ! Oh non, Michel, il l'appelait couillon là. Je pense que cet homme est fâché contre ton père. Mais non, couillon ici, c'est un terme affectueux. Elle ne comprend pas non plus la durée des repas. On se met à table à midi, à 17h, on y est toujours. Je pense que c'est bon là, Michel, il est 17h, on peut peut-être envisager de partir de chez ta mère, non ? Qu'est-ce qu'elle dit, petite anglaise ? Faut sortir de table ? Eh mais c'est 17h ! Oh ! Mais c'est l'heure de l'apéro ! Oh non, Michel. Je ne vais pas tenir ici. C'est une terre hostile pour moi. La pluie de Londres me manque.
Alors un truc que tu fais très très bien, c'est les voix de gens qui sont en train de fumer.
Oui, la chicha
ou le joint.
Ou le joint.
C'est quoi, c'est...
Oui, ça fait un peu... Ce qui compte, c'est le présent. Oui, ben voilà. J'ai toujours imité, en fait. Toujours. Même petite. C'est une façon pour moi de digérer la réalité, je pense. J'ai besoin, quand je vis une scène, de la refaire... Même toute seule chez moi, hein. C'est bizarre.
Ah bon ?
Ouais, ouais. C'est ma mère qui me racontait que je rentrais de l'école, j'avais mon sac à dos sur le dos et je fonçais dans ma chambre, je montais les escaliers, je fermais la porte et je refaisais la journée. Avec la maîtresse, en général, je m'attribuais plein de bons points. Ça, ma mère, elle écoutait à la porte. Et elle disait, on se marrait avec ton père. Mais ça, je pense aussi. Donc, ma mère est... quand même un personnage fort, qui a des émotions fortes, et quand j'imitais, ça la faisait rire. Donc je pense que ça me faisait du bien de la voir rire.
Je demande à Kelly si elle, qui se retrouvait entre des parents de deux cultures différentes, si parfois elle avait la sensation de trahir l'un ou l'autre dans les choix qu'elle avait pu faire.
Le fait que ma mère soit réellement la seule personne qui parlait anglais dans le foyer, puisque mon père lui répondait en français, nous avec mon frère on lui répondait en français aussi, il y a eu des choses comme ça où je pense qu'elle se sentait un peu à l'écart. Et puis toute sa famille n'était pas en France, elle était en Angleterre. Donc oui, moi je pense qu'il y avait des fois où, surtout à l'adolescence, où entre mère-fille, j'étais plus complice, on va dire, avec mon père. Je devais, oui, avoir tendance à me dire, je la trahis quelque part, je suis plus proche de ma culture française que de ma culture anglaise. D'ailleurs, j'ai un autre métier qui est traductrice, et j'ai traduit des pièces de théâtre de l'anglais vers le français. Et un jour, une amie... qui est psy, m'a dit, tu traduis les mots de ta mère, M-O-T-S et M-A-U-X. Et je me suis dit, c'est vrai que finalement, de traduire, j'avais certainement envie qu'il y ait une meilleure compréhension entre les deux.
Tout à l'heure, Kelly racontera la suite de l'histoire de son grand-père, mais d'abord, on fait un détour par l'Italie, où ces mêmes questions de double origine et de grand-père très mystérieux se posent pour Zero Calcar. Zero Calcar, vous l'aviez entendu dans un épisode précédent, l'épisode 39. C'est un jeune auteur de bande dessinée italien.
Auteur de BD, ça fait super sérieux en français. Comme je maîtrise pas super bien la langue française, en italien je dis fumettista.
Zero Calcar était venu chez moi pour l'interview. J'avais fait des blagues un peu bêtes dans l'ascenseur pour être moins intimidé. Il faut dire que juste avant, Fabio, mon copain italien de Paris, avait poussé des cris aigus quand je lui avais dit que j'allais l'interviewer. Zero Calcar est une star en Italie. Et lui aussi, il a grandi entre deux langues.
Je ne sais pas si ça a vraiment modifié mon rapport au monde, à part le fait que c'est clair que quand tu peux parler français en Italie, la seule chose qui me sert vraiment, c'est quand je fais la queue au supermarché, je peux parler avec ma mère de trucs horribles, des gens qui sont à côté de nous sans qu'ils comprennent.
Zero Calcar parle souvent de son quartier romain de Rebibbia, un quartier où, aussi loin qu'on se souvienne dans la famille, vivait la famille de son père. Rebibbia, c'est un quartier où se trouve notamment la plus grande prison d'Europe, dans la périphérie nord-est de la capitale italienne, au terminus de la ligne B du métro.
Mon arrière-grand-père, il avait même construit pas mal de bâtiments. Après, il a tout perdu au jeu, dans les années 50, je crois.
Du côté de sa mère, on avait honte de dire qu'on s'était installé à Rebibbia. Dans une bande dessinée qu'il consacre à sa grand-mère, une bande dessinée qui s'appelle « Oublie mon nom », Zero Calcar raconte cette scène. Quand des inconnus demandaient à sa grand-mère où elle habitait, elle répondait « Oh monsieur, près de Talenti, de Monte Sacro, du côté de Ponte Mamolo ». Tout ça pour ne pas avoir à prononcer le nom de Rebibbia. Et c'est de ce côté-là, côté maternel, qu'il y avait des secrets. Et pour les mettre à jour, Zéro Calcar, lui, ne rejoue pas les scènes, il n'imite pas les accents. Lui, il écrit des bandes dessinées. Dans ses BD, il dessine ses grands-parents en renard roublard. Pour lui, cette histoire, elle a véritablement commencé à l'enterrement de sa grand-mère, quand il a remarqué que les couronnes de fleurs qui lui étaient adressées portaient toutes des prénoms différents.
Ma grand-mère, elle est de Nice, en fait, elle est de Tourrette-sur-Loup. Elle a épousé un homme, un noble anglais, qui en fait se faisait appeler Thomas, mais en fait c'était pas son vrai nom, parce que lui c'était un imposteur, il avait volé l'identité d'un vrai noble anglais, alors que lui c'était un imposteur italien et tout, et donc ils se sont baladés dans l'Europe avec plusieurs noms, plusieurs prénoms, et ma mère elle sait pas vraiment où est-ce qu'elle est née, parce qu'elle avait pas vraiment des papiers au moment de sa naissance et tout, c'est toutes des choses qui pouvaient arriver juste pendant la guerre ou juste après la guerre, et maintenant ce serait impensable.
Donc ta grand-mère était au courant de cette imposture ?
Pas au début, pas quand elle l'a épousé, mais après, au bout d'un moment, je pense que lui, il avait vendu un bateau fantôme aux nazis en 43, je crois, un bateau qui n'existait pas, en fait. Et donc après, il était parti, il avait laissé ma grand-mère toute seule. Alors, à ce moment-là, ma grand-mère, elle a compris qu'elle avait épousé un arnaqueur, mais après, il est revenu pour la porter avec lui. C'est quelque chose de super compliqué, j'ai eu du mal même à reconstruire tout ça.
Zéro Calcar écrit que la douleur crée des trous dans la transmission de la mémoire, que chacun les remplit ensuite comme il peut, parce que les trous, quand on les remplit pas, c'est le bordel. Il en sort des rats, des cafards, c'est dégueulasse. L'incertitude, l'opacité, les zones d'ombre de ta vie et celles de tes proches, il écrit, ce sont comme des termites qui rongent, qui creusent, et qui ouvre des failles.
J'avais jamais su toutes ces histoires, parce que même dans ma famille, on pouvait pas en parler, parce que ma grand-mère, elle avait toujours vécu avec la peur que quelqu'un puisse la retrouver, tout ça.
Parce qu'entre-temps, elle était encore cachée.
En fait,
c'était des fantasmes.
Oui, voilà, c'était des fantasmes. Elle vivait comme si quelqu'un encore la cherchait, mais évidemment, en 2010, en Italie, personne n'avait rien à faire avec cette histoire.
C'est joli comment Zéro Calcar parle de ça dans sa bande dessinée. Il dit « Ensemble, ma grand-mère, élevée par des aristocrates russes et mon grand-père escroc, ils ont fait un pari, désobéi au monde auquel ils appartenaient, brûlé les ponts et les traditions derrière eux. Ils ont vu une infinité de lieux, multiplié les aventures, à une époque où tout était encore possible. Bah, en gros, ils faisaient des magouilles, avec certaines règles. Ne mens pas à plus pauvre que toi, n'escroque pas deux fois le même homme, ne vole pas plus de poules que n'en supporte ton estomac. » Je lui demande s'il a connu son grand-père imposteur.
L'homme, l'imposteur de tout ça, je ne l'ai jamais connu.
Et donc ta grand-mère a été laissée seule avec le poids de ses mensonges à gérer jusqu'à la fin de sa vie.
Ouais, et avec 3 voire 4 enfants qui ont vécu tous ces mensonges et chacun a réagi différemment. Il y en a qui l'ont détesté parce que ils ont dû porter ce poids quand ils étaient petits, c'était des enfants, ils pouvaient pas jouer avec d'autres enfants parce qu'ils pouvaient pas dire leur vrai nom et tout ça. Et sinon, il y a ma mère qui a vécu en fait très bien parce qu'elle disait que de toute façon c'était une famille pleine d'amour et tout ça. Donc c'était assez complexe.
Et du coup, une fois qu'elle est décédée, ces histoires-là ont commencé à ressortir soudainement ou toi tu les avais jamais entendues?
J'avais jamais entendu, mais il y avait souvent des trucs qui clochaient dans l'histoire de ma famille. Ma mère, elle, il y avait des trous dans l'histoire de la vie de ma mère que elle ne m'expliquait jamais vraiment pourquoi elle était née à Paris et après elle était arrivée en Italie et tout ça. Et après la mort de ma grand-mère, un jour ma mère, elle m'a dit ouais, si tu veux, un jour la semaine prochaine, on ira dans un petit bled en Italie. Et c'est le bled où j'ai grandi à 16 ans quand je suis arrivé en Italie. Et je t'explique pourquoi on est arrivé là-bas et tout ça. Et elle m'a tout raconté.
Pour comprendre comment sa grand-mère était passée d'un manoir de Provence à une tour de béton en Italie, Zéro Calcar est parti dans une quête avec sa mère. Et dans sa bande dessinée, il dessine sa mère avec les traits d'un personnage du dessin animé de Robin des Bois.
C'est Dame Gertrude, mais ça c'est pour une question, c'est parce qu'elle est grosse, et donc comme Dame Gertrude, voilà.
Et ça fait quoi d'entendre comme ça tout d'un coup une grande partie de son histoire en un bloc?
Ça fait bizarre, surtout pour le rapport avec ta mère, parce que ma mère, je l'ai toujours vue comme une personne que je connais depuis toujours. Et en fait, tu découvres qu'il y a plein de trucs et d'aspects de sa vie qui sont impensables, qui sont même très différents de la manière dont tu la vois. Et voilà, ça fait bizarre, ça te fait remettre en question un peu tout.
Et c'est sa mère qui avait changé souvent de prénom et de nom, qui lui dit ceci. Mon trésor, tu crois vraiment que ton nom détermine ton identité ? J'en ai eu beaucoup de noms, les mêmes que beaucoup d'autres gens. L'identité, c'est ce qui n'est qu'à toi. Et la seule chose qui n'appartient qu'à toi, ce sont tes secrets.
En fait, découvrir la douleur de ses parents, la fragilité de ses parents, les trucs que normalement t'associes au fils, aux enfants et tout ça, c'est sûr que ça, c'est une des étapes pour grandir, je crois.
Kelly, qu'on entendait tout à l'heure, a elle aussi fait un voyage avec sa mère pour retrouver les traces de son grand-père. Et au cours de ce voyage, elle s'est retrouvée dans des pubs avec un jour une femme qui s'est mise à chanter et sa mère qui, elle aussi, surprise, s'était mise à chanter et qui connaissait cette chanson, à l'époque totalement inconnue de Kelly.
I must away now, I can no longer tarry.
Après le disque choisi par Djoubaka, on entre dans les secrets de la grand-mère et du grand-père de Kelly et dans les traces que ça a pu laisser pour sa génération.
I must be guided without a stumble into the arms I love the most.
I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors, yes sir, all my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no other, all my favorite colors. It's a good day.
Écoutez Full Continental sur la première de la RTBF et sur France Inter. Dans cet épisode qui est le dernier de l'année, on remonte aux origines, notamment parce que c'est un travail intéressant à faire l'été. Peut-être que vous aussi, vous allez retourner dans vos familles, dans vos histoires de famille. Peut-être que ça va dénouer quelque chose de totalement magistral. Peut-être que les réponses seront super décevantes. En tout cas, ça me semble jamais inintéressant de poser des questions aux parents et aux grands-parents, surtout quand il y a des secrets. En vrai, il y en a toujours, mais plus ou moins loin, plus ou moins avouables. Et à l'intérieur même des clans, on ne sait pas pourquoi certains passent leur vie à essayer de comprendre d'où ils viennent et d'autres n'ont jamais compris l'intérêt de chercher. Kelly, elle, a toujours été fascinée par l'histoire de son grand-père disparu. Elle a décidé de mener l'enquête et puis ensuite d'écrire une pièce.
Donc quand j'étais petite, je voyais ma mère, elle en parlait de ce père en disant « Je n'ai jamais connu mon père, toi tu sais pas ce que c'est que de pas connaître son père. » Donc je voyais la douleur que cette absence avait laissée chez ma mère en fait. Mais c'est vrai qu'enfant, c'est pas des choses, on s'intéresse pas à son passé, ni au passé de ses parents et tout ça. Adolescente, bon voilà, encore une fois, j'étais en empathie, ça me faisait quelque chose. Mais j'étais pas forcément non plus là-dedans. Et c'est plutôt jeune adulte où cette disparition, parce qu'en fait elle disait je l'ai jamais connu et tout ça, mais si, elle l'avait connu. Sauf qu'il disparaissait régulièrement, des fois quelques heures, des fois quelques jours, des fois quelques semaines. Et alors au bout d'un moment quand même, ça a commencé d'une part par m'intriguer, puis après par me fasciner quand même. Et dans la vie, je le racontais beaucoup. Mais tu vois, il a eu 6 enfants, puis il a disparu. Ah ouais, mais il a disparu, mais c'est-à-dire... Et du coup, ça a toujours été là. Quand on me demande combien de temps j'ai mis pour écrire la pièce et tout ça, en réalité, peut-être quelques mois, mais cette histoire, je la porte en moi depuis très longtemps. Et j'ai apporté des photos de ma grand-mère, mais surtout, voilà, cette photo qui est un peu la seule qui circule de mon grand-père.
Waouh ! Le grand-père, elle est toute floue, la photo
Voilà, elle est toute floue, et en fait, il y a 3 photos de lui qui sont toutes floues.
Et là, sur cette photo qui est floue, on voit 2 petites filles ou ouais. 2 petits-enfants.
Ouais.
2 petits-enfants dans un champ, et on voit ton grand-père. C'est flou, mais il a l'air d'avoir un sourire authentique
ouais.
et heureux.
Ouais.
Et ta grand-mère refusait de parler.
Oui.
Tu imaginais ce qu'il avait pu devenir ?
Voilà, c'est ça. C'est que ce non-dit, d'une part de la grand-mère, de ma grand-mère, donc qui, elle, ne m'en a jamais parlé et a très peu dit de choses, puis de ma mère, qui ne sachant pas grand-chose, ne voulait pas non plus trop en parler, moi, ça excitait mon imaginaire. Et effectivement, je me disais, imagine, il est encore en vie. Et après, je regardais aussi beaucoup la vie des Irlandais de ces années-là, et je voyais qu'ils étaient, certains étaient partis en Australie, d'autres aux États-Unis. Donc je me disais, ça se trouve, il a refait sa vie. Il a une vie flamboyante aux États-Unis, ou alors pas du tout, il a une rue d'ici, à Londres, et il a refait sa vie aussi. Enfin, le fait de ne pas savoir ce qu'il était devenu, d'abord, ça pouvait dire qu'il était encore en vie, et ça générait plein d'imaginaires chez moi et de pistes possibles, quoi. Alors, bon, vraisemblablement, son histoire est sans doute plus banale et plus tragique que ça, quoi.
Dans son spectacle, Kelly évoque une hypothèse qui me plaît tout particulièrement. Elle a imaginé que son grand-père était parti travailler sur un phare au large de la mer mouvementée d'Irlande. Et qu'alors, après 3 jours de tempête, on avait retrouvé sa barque vide. C'est comme ça qu'il avait disparu. Je lui demande comment les recherches ont commencé pour elle.
D'abord un peu par la famille, en essayant de recueillir tout le matériau que je peux. Donc
parce que tout ce que tu savais, c'est qu'il était un jour parti avec la clé à la porte, on l'avait plus revu.
Mais je ne sais pas le jour exactement, je ne sais pas pourquoi. Donc je communique avec une cousine qui habite à Londres, où je lui dis « Toi, qu'est-ce que tu sais ?» Elle me dit « Écoute, moi, je sais qu'un jour, il est parti acheter des cigarettes et il n'est jamais revenu. » Je me dis « Ah ouais, donc elle aussi, elle croit à cette légende, parce que je ne peux pas croire que ce soit vraiment passé comme ça. » Je sais qu'après, il a eu peut-être une autre femme, qu'il habitait dans la même rue que ma grand-mère. Mais bon, pas grand-chose. Je demande un peu à ma mère, mais c'est pas facile. Ma grand-mère, j'ai pas vraiment accès à elle. Et donc après, bah, je me dis « Tiens, un détective privé. » Et un jour, une amie me parle de Duluc Détective, rue du Louvre. Et j'y suis allée.
C'est une perpendiculaire à la rue de Rivoli.
Voilà.
Et il y a effectivement marqué Duluc Détective en grand sur la façade. Ouais. Et ça a l'air très, très, très ancestral.
Bah oui, c'est une enseigne encadrée d'un néon vert. Et cette amie qui est parisienne, moi je ne le suis pas d'origine, elle me dit « Mais tu connais pas Duluc Détective, c'est mythique, quoi. » Et j'y suis allée. Elle ouvre un agenda un peu vide et elle m'explique qu'elle avait... C'est compliqué parce que l'Angleterre, ça veut dire un correspondant là-bas, mais elle en avait un, mais il est parti à la retraite. Et après, elle me dit, oui, alors s'il a changé de nom, alors là, Enfin, c'est compliqué. On peut lancer quelque chose pour 1 500 € environ, sans aucune garantie. Puis tout d'un coup, on se dit, dans quoi je m'embarque, quoi. J'avais aussi appelé les hôpitaux de Londres. J'avais aussi pris l'annuaire à Londres. Je savais pas trop comment m'y prendre. J'ai fait appel à des généalogistes. Enfin, j'ai fait des tas de trucs et au bout d'un moment, j'ai dit, bon, j'y arriverai pas. Le théâtre, ça fait revivre les morts. C'est l'espace des morts, c'est l'espace de la fiction. Pourquoi il n'y a que moi que ça obsède dans la famille ? Allez, on essaye d'en faire quelque chose.
Et donc, tu emmènes ta mère dans le village d'origine ton grand-père, en Irlande.
En Irlande, ça on l'a fait. Donc on est allé vers Achill Island. Là, elle avait une amie qui habitait là-bas. On a passé quelques nuits là-bas. Puis on est redescendu par les falaises de Moher, par Galway et tout ça, jusqu'à Limerick. Là, bien sûr, il a plu. Et on a retrouvé le petit village et on a retrouvé la maison de mon grand-père. Et j'avais fait une vidéo de ça. Et j'avais filmé ma mère dans la voiture, avec la pluie sur les vitres de la voiture. Voilà, elle me disait, voilà, il a habité là. Et puis après, elle se retournait et elle m'a dit, well, life goes on. Et cette vidéo a disparu. Je sais que ça paraît. On ne l'a jamais retrouvée. Ça aussi, je pense que ça a été un c'est pas possible, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'avais une vidéo de la maison, de ma mère qui visite la maison, de ma mère dans la voiture. Encore une fois, le théâtre, il est né de cette envie-là de dire, mais toutes ces pièces manquantes, je vais le revivre.
Tu as retrouvé une sœur de ton grand-père ?
Oui, deux. Même.
Deux sœurs de ton grand-père.
Et là, j'ai été persuadée, quand on les a retrouvées, qu'on allait savoir. Je m'étais dit, elles vont nous dire, bah oui, il est mort telle année, il est enterré dans tel cimetière, où on a appris qu'il avait terminé sa vie là-bas et tout ça. Et en fait, rien. Une des tantes était très émotive, Nora. Elle, vraiment, elle nous a demandé combien il a eu d'enfants, elle savait rien en fait. Et surtout, est-ce qu'il avait eu un garçon ? Et quand on a dit le nom de mon oncle, elle a fondu en larmes en disant, il a toujours dit, si j'ai un fils, je l'appellerai comme ça. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit finalement, mais la dernière fois qu'elle l'a vu, il avait donc 19 ans. Et là, on arrive comme des fantômes du passé. Elle a en face d'elle sa nièce, qui est ma mère, qu'elle a jamais vue. Enfin, c'était fort, quoi. Quelques heures après, on a vu l'autre sœur, qui elle était beaucoup plus ronde, moins émotive, qui nous a dit, il a disparu. C'est comme ça, ici, il y a des familles de 10, 15 enfants, alors forcément sur 10 enfants ou 15 enfants, il y en a un qui va en Australie, il y en a un qui va aux États-Unis, il y en a un qui reste ici, il y en a un qui meurt, il y en a un qui disparaît. C'est ce que je dis dans la pièce, quoi. It's normal, it's statistics, quoi. Elle l'a pas dit comme ça, elle a pas dit statistics, mais je trouvais ça beau aussi que dans une même fratrie, deux sœurs le prennent pas du tout de la même façon. Élevées par les mêmes parents, ayant la même histoire, mais voilà, on vit pas les choses de la même façon, quoi.
Mais il a peut-être quand même disparu sur un phare.
Non, je pense pas. Je pense qu'il est décédé à l'heure d'aujourd'hui. Mais je trouvais ça triste de ne pas savoir.
Je demande à Kelly pourquoi elle s'intéresse à ces histoires. C'est souvent le cas finalement que les petits-enfants s'intéressent davantage aux tabous qu'aux enfants des premiers concernés.
Ma grand-mère a vécu avec cet homme. Ma mère, c'est la deuxième génération. Elle est un petit peu sous l'emprise aussi de sa mère. Et on dit souvent que c'est la troisième génération qui, ayant plus de confort émotionnel. Moi, voilà, j'ai grandi avec mes deux parents. Elle a plus l'audace d'aller voir ce qu'il y a derrière tout ça. Mmh. C'est souvent la troisième génération qui essaie de briser le tabou, quoi. Ça n'a pas trop plu à ma mère, d'ailleurs.
Ah ouais.
Non, la pièce, je l'ai créée en sous-marin, vraiment, sans le dire à personne. Petit à petit, le projet a pris de l'ampleur, et notamment, il a été programmé à Avignon Off. Et là, il fallait que je m'absente un mois, j'ai deux enfants, il fallait que je dise à mes parents, est-ce que vous pouvez les garder ? Et là, j'ai dû le dire. Ça, ma mère m'a dit, oui, je pense qu'il y a un scénario, effectivement. Il y a un script, il y a une histoire. Je lui ai dit, ça va parler de ton père, de sa disparition. Après, elle m'a quand même dit, j'espère qu'il y a des choses que tu dis pas. Et je l'ai dit. Donc j'ai dit, non, je l'ai dit pas. Et ensuite, ils sont venus, ils ont eu le courage vraiment de venir à Avignon à la dernière et de voir la pièce et... Mais je vous avoue qu'ils n'ont pas dit grand-chose après. Enfin, c'est compliqué. Récemment, elle a quand même dit « Pourquoi tu fais ça ?» J'avoue que je me suis demandé si j'étais pas un peu un monstre, quoi, à un moment donné, Et c'est surtout quand je vois le bien que ça fait au public, le bien que ça fait aux gens, le fait qu'après ils viennent me raconter leurs histoires eux-mêmes, je me dis, mais si, ça a du sens de faire ça quand même. Est-ce qu'on a le droit ? En tout cas, je me le suis octroyé, ça c'est clair. J'ai pas écouté les interdits.
Avant de se quitter, Kelly ouvre un livre. C'est l'objet qu'elle a choisi de sortir en dernier de son sac, peut-être parce qu'elle se dit que c'est bien de finir les rencontres avec des poèmes.
Le poème s'appelle « The Lake Isle of Innisfree ». Parce qu'en fait, dans les choses que je m'étais imaginé que mon grand-père était devenu, je m'étais dit « ça se trouve, il est tranquillement dans une petite cabane en Irlande ». Et ce poème parle de ça. « I will arise and go now, and go to Innisfree ». And a small cabin que je me lève et je parte, que je parte pour Innisfree, que je me bâtisse là une hutte faite d'argile et de joncs. J'aurai 9 rangs de haricots, j'aurai une ruche, et dans ma clairière je vivrai seul, devenu le bruit des abeilles. Et là, j'aurai quelques paix, car goutte à goutte, la paix retombe, des brumes du matin sur l'herbe où le grillon chante. Et là, minuit n'est qu'une lueur, et midi est un rayon rouge, et d'ailes de passereaux débordent le ciel du soir. Que je me lève et je parte, car nuit et jour, j'entends clapoter l'eau paisible contre la rive. Vais-je sur la grande route où le pavé incolore, je l'entends dans l'âme du cœur. I hear it in the deep heart's core.
J'aimais bien l'idée de terminer ce dernier épisode de cette première année de Full Continental avec cette idée de cabane. Certains parmi vous auront lu le livre de Marielle Massé qui porte ce titre « Nos cabanes ». Je vous laisse pour l'été qui commence avec quelques mots qu'elle a écrits parce que l'été c'est propice pour en fabriquer. Faire des cabanes, imaginer des façons de vivre dans un monde abîmé. Pas pour se retirer du monde, s'enclore, s'écarter, tourner le dos aux conditions et aux objets du monde présent, pas pour se faire une petite tanière dans des lieux supposés préservés et des temps d'un autre temps en croyant renouer avec une innocence, une modestie, une architecture première, des fables d'enfance, des matériaux naïfs, l'ancienneté et la tendresse d'un geste qui n'inquiéterait pas l'ordre social, mais pour leur faire face autrement, à ce monde-ci et à ce présent-là, avec leur saccage, leur rebut, mais aussi leur possibilité d'échapper. Loin du cabanon solitaire de taureaux, faire des cabanes au bord des villes, dans les campements, sur les landes et au cœur des villes, sur les places, dans les joies et les peurs, sans ignorer que c'est avec le pire du monde actuel, de ces refus de séjour, de ces expulsions, de ces débris, que les cabanes souvent se font, et qu'elles sont simultanément construites par ce pire et par les gestes qui lui sont opposés. Faire des cabanes en tout genre, inventer, jardiner les possibles, sans crainte d'appeler cabane des huttes de phrases, de papier, de pensée, d'amitié, des nouvelles façons de se représenter l'espace, le temps, l'action, les liens, les pratiques. Faire des cabanes pour occuper autrement le terrain, c'est-à-dire toujours aujourd'hui, pour se mettre à plusieurs. Faire des cabanes pour relancer l'imagination. À la rentrée en septembre, sur ce créneau horaire ou sur un autre, il paraît qu'on va pouvoir continuer à écouter ceux qui se mobilisent, les luttes de nos temps, ces jeunes qui repensent les façons de s'engager, d'aimer, de communiquer, de voter, de travailler, dans un monde en profonde mutation. On va creuser ces questions et on se donne comme échelle, comme cadre, un vieux continent où, mine de rien, de façon cachée parfois, souvent, les idées émergent. Merci infiniment à tous ceux qui ici ont partagé leurs histoires, leurs idées, leurs inquiétudes cette année. Merci à vous qui nous écoutez pour votre fidélité, j'ai hâte de vous retrouver. Merci à Anna Buy pour la réalisation, à Martine Messonnier au montage, à Mathilde Picard pour la traduction. Vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux où vous pouvez nous écrire. Full Continental est sur Facebook, Twitter, Instagram et sur toutes les applications de podcast. Je vous souhaite un très très bel été.